Vous écoutez, on lit pour vous.
Des bracelets en fer extraterrestres. Un texte de Raphaël de Rome, paru le 26 juin 2025 dans le magazine Québec Science. Trois bracelets, un anneau de cheville et une épingle en fer datant des 7e et 8e siècles avant notre ère. Ces bijoux antiques, retrouvés lors de fouilles dans un ancien cimetière polonais, contiennent du fer venu de l'espace. En effet, avant que nos ancêtres apprennent à extraire le métal en chauffant du minerai à 1200 degrés Celsius, ce qui marque le début de l'âge du fer, le seul fer utilisable était celui provenant des météorites. Car le fer a beau être abondant sur notre planète, il n'existe que sous forme oxydée. Certaines météorites, cependant, sont riches en fer métallique qu'on peut récolter et travailler, si on a la chance de voir une météorite tomber dans sa région. Plusieurs centaines d'objets en fer météoritique ont été recensés dans le monde, dont le plus célèbre est une dague richement décorée du tombeau de Toutankhamon. C'est leur teneur élevée en nickel qui trahit leurs origines extraterrestres. Le fer des météorites contient entre 5 et 15 % de nickel, alors que le fer terrestre n'en contient que 0,2 % explique le géochimiste Albert Jambon, professeur émérite à Sorbonne Université et premier auteur de l'étude publiée dans Journal of Archaeological Science Reports. Hormis en Grèce, on n'avait jamais trouvé en Europe le moindre objet en fer météoritique. On ignorait si c'était parce qu'ils avaient été détruits, le fer se conserve mal dans les régions humides, ou pour des raisons culturelles, poursuit l'expert qui a collaboré avec une équipe polonaise. La trouvaille démontre aussi que les peuples de cette région s'intéressaient eux aussi aux météorites. L'analyse a été réalisée par microscope électronique et rayon X pour ne pas détruire les artefacts. Elle révèle la présence de fer issu d'une météorite locale mélangée à du fer métallurgique raffiné par l'humain, importé d'ailleurs. Les deux métaux n'ayant pas la même couleur, nous imaginons que c'était fait dans un but décoratif, dit Albert Jambon. Si c'est bien le cas, on a affaire à des artisans tout à fait habiles. Étant donné que les tombeaux ne contenaient ni or, ni argent, ni pierres précieuses, l'étude conclut aussi qu'on n'a pas affaire à des sépultures royales. Pour ce peuple, le fer météoritique avait donc perdu la grande valeur symbolique qu'on lui attribuait plus tôt dans l'histoire. Et si le fer était lui-même un marqueur de statut? Demande l'archéométallurgiste québécois indépendant Louis-Olivier Lortie, spécialiste de l'âge du fer. Les météorites sont assez peu communes et le fer métallurgique importé devait avoir une certaine rareté. C'était « Des bracelets en fer extraterrestres », un texte de Raphaël de Rome, paru le 26 juin 2025 dans le magazine Québec Science.
La Banque du Canada réduit son taux directeur de 2,5 points de base à 2,25, un texte de Stéphane Bordelot, paru le 29 octobre sur Radio-Canada Info. Dans un contexte de chômage en hausse et de perspectives de croissance assombries par le conflit commercial avec les États-Unis, la Banque du Canada insuffle un peu d'oxygène dans l'économie en abaissant de 25 points de base son taux directeur qui passe de 2,5 à 2,25. La plupart des économistes prévoyaient cette baisse du taux directeur en dépit d'un bond d'un demi-point de pourcentage de l'inflation en septembre à 2,4 sur une base annuelle. Une citation extraite du communiqué de la Banque du Canada affirme que l'économie canadienne s'est contractée de 1,6 au deuxième trimestre, sous l'effet d'une chute des exportations et de la faiblesse des investissements des entreprises. Croissance très modeste. Les droits de douanes américains et l'incertitude commerciale ont affaibli l'économie canadienne. Nous prévoyons une croissance très modeste jusqu'à la fin de l'année, avec une légère reprise en 2026, a prévenu le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff McClem. Le conflit commercial avec l'administration Trump entraîne des coûts supplémentaires pour un grand nombre d'entreprises, ce qui exerce aussi une pression à la hausse sur l'inflation, a rappelé M. McClem. Des forces qui devraient, selon les prévisions de la banque, s'équilibrer globalement en maintenant l'inflation proche de son objectif de 2%. Le taux de chômage, lui, atteignait 7,1% au Canada en septembre, son plus haut niveau depuis août 2021. Chez les jeunes de 15 à 24 ans, le taux de sans-emploi était quant à lui de 14,7. Des paramètres que ne pouvait pas ignorer le gouverneur de la Banque du Canada dans un contexte où les choses pourraient encore se compliquer, comme l'a récemment montré le président Trump en rompant les négociations commerciales avec le Canada après la diffusion aux États-Unis d'une publicité ontarienne qu'il n'aimait pas. Dommages structurels. Selon la Banque centrale, cette hausse historique des droits de douane américains force une redéfinition des relations commerciales du Canada, un passage obligé qui laissera des cicatrices. La faiblesse que nous observons dans l'économie canadienne est plus qu'un ralentissement conjoncturel. Il s'agit également d'une transition structurelle. Tiff McClem, gouverneur de la Banque du Canada, affirmait que les dommages structurels causés par les droits de douane réduisent notre capacité de production et augmentent les coûts. Cela limite la capacité de la politique monétaire à stimuler la demande tout en maintenant l'inflation à un faible niveau, a ajouté M. McClem. Par ailleurs, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff McClem, a dû prendre cette décision d'abaisser le taux directeur sans avoir un aperçu précis des finances du gouvernement de Mark Carney, qui doit déposer son premier budget le 4 novembre. Un exercice budgétaire très attendu qui doit, selon M. Carney, jeter les bases d'une transformation en profondeur de l'économie canadienne qui repose depuis des décennies et dans une large mesure sur ses échanges commerciaux avec les États-Unis. Un virage qui, de l'aveu même du premier ministre, nécessitera des sacrifices et du temps. Bon nombre de nos anciens atouts, fondés sur nos liens étroits avec les États-Unis, sont devenus nos vulnérabilités, avait-il expliqué le 22 octobre. Il s'agit de la 9e baisse du taux directeur de la Banque du Canada depuis avril 2024, où ce dernier était à 5% en raison d'une flambée persistante de l'inflation. Retour des prévisions économiques. La Banque du Canada, qui ne publiait plus de prévisions économiques depuis janvier dans son rapport sur la politique monétaire, a par ailleurs renoué avec cet exercice. L'institution prévoit notamment une faible croissance du PIB en moyenne de 0,75% pour le second semestre de 2025. Elle devrait ensuite s'accélérer sur une base trimestrielle en 2026, à mesure que les exportations et les investissements se redresseront pour atteindre une moyenne d'environ 1,5% d'ici 2027, projette l'institution. Même si la croissance reprend, la trajectoire globale du PIB est inférieure à ce qu'elle était avant le changement de politique commerciale des États-Unis. À la fin de 2026, le niveau du PIB sera inférieur d'environ 1,5% aux prévisions de janvier, a ajouté Tiff McClem. En ce qui a trait à l'inflation, la Banque centrale constate que l'inflation sous-jacente demeure autour de 2,5%. La Banque s'attend à ce que les pressions inflationnistes s'atténuent au cours des prochains mois et à ce que l'inflation mesurée par l'IPC reste proche de 2% sur l'horizon de projection. C'était « La Banque du Canada réduit son taux directeur de 2,5 points de base à 2,25 ». Un texte de Stéphane Bordelot, paru le 29 octobre sur Radio-Canada Info.
Melika Abdelmoumen, « Chacun sa cam ». Un texte de Philippe Fortin, paru le 21 octobre 2024 dans les libraires. Forte d'une présence littéraire qui s'échelonne désormais sur 25 ans de projets multiples, de la chefferie des rédactions au collectif, en passant par la fiction, l'autofiction et l'essai, Melika Abdelmoumen revient à ses premières amours en faisant paraître « Petite ville ». Roman noir aux accents des polars vaudous de Gary Victor, infusé de ce que la principale intéressée qualifie de réalisme sorcier. Il aura fallu 10 livres et deux fois plus d'années, pour que le retentissement et le succès daignent nimber le front de celle que cette reconnaissance tardive amuse et laisse songeuse. Je ne l'espérais même plus, pour être bien franche. Baldwin, Styron et moi, Mémoire d'Encrier 2022, a changé beaucoup de choses, c'est certain, mais je me rends compte que ce qui me réjouit le plus dans tout ça, c'est le plaisir du partage qui se rend quelque part, qui arrive à destination. Le plaisir de se savoir lu est un sentiment formidable. Pour s'extirper de la solitude de l'écrivain, l'autrice des engagements ordinaires a souvent répondu d'enthousiastes oui aux propositions littéraires les plus diverses, se faisant un point d'honneur de faire connaître ceux dont on parle moins tout en contribuant à cette forme de légitimation qui ne vient qu'avec l'assentiment des pairs. Tu vois, dans le prochain numéro de Lettres québécoises, LQ, on a un dossier sur Michel Jean. J'avais envie de défendre l'œuvre de cet écrivain, de la consacrer en quelque sorte, en lui consacrant des pages sérieuses qui saluent l'œuvre et l'homme. La forme essayistique a été d'un abord difficile. J'avais peur de me lancer dans l'écriture d'un essai. Je craignais ne pas être assez intelligente. Mais j'ai fini par me rendre compte qu'il s'agissait d'un passage obligé, qu'il me fallait exprimer un certain nombre de choses sous cette forme avant de pouvoir revenir à la fiction, sans quoi mes romans auraient été trop teintés. Et je n'aime pas les romans à thèse où le propos éclipse l'histoire. Il m'aura donc fallu passer par l'essai pour être en mesure de trouver le moyen de sublimer les enjeux qui me tiennent à cœur dans la fiction. Petite ville existe ainsi dans un coin du cerveau de l'autrice depuis plus d'une décennie. Les personnages de ce texte amorcé en 2013, tout juste après Les Désastrés, vivotaient librement dans sa tête depuis tout ce temps comme des amis imaginaires. Simon et les autres m'attendaient calmement. Je les voyais se dessiner et se préciser comme malgré moi, pétris d'éléments pour lesquels je savais qu'ils n'étaient pas, et moi non plus, encore mûrs. Une fois terminé un certain cycle, j'ai finalement senti que le temps était venu de régler mes comptes avec eux en écrivant leur histoire. Pour le personnage de Renaud Michel, un chroniqueur à la démagogie problématique, comme on en croise de plus en plus dans le monde médiatique réel, l'autrice a travaillé très fort pour composer un portrait réaliste et nuancé. Il aurait été facile de caricaturer ce genre de personnage, et c'était précisément le défi. Je voulais un méchant crédible qu'on prendrait au sérieux, mais aussi qu'il reste un être humain, avec ses failles, ses faiblesses, ses angles morts et justement et malgré tout, son humanité. Les thématiques abordées dans ce texte mettent en lumière des éléments centraux du parcours littéraire et intellectuel de Melika Abdelmoumen. Son retour à la fiction, après une carrière marquée par la diversité des projets et des genres, incarne cette aspiration à transcender les frontières conventionnelles de l'écriture pour parvenir à un équilibre subtil entre exploration stylistique, rigueur narrative, plaisir de raconter et besoin d'émettre un propos. J'avais envie de m'amuser et d'écrire une histoire que les gens prendraient plaisir à lire, à dérouler, à comprendre. Sans tomber dans la facilité, je voulais m'autoriser cette forme d'hommage aux romanciers les plus champ gauche de la littérature policière, notamment en jouant avec les mêmes codes qu'eux. L'embrouillamini générique est une notion que j'aime beaucoup. L'idée de réalisme sorcier est en elle-même fascinante. Elle renvoie à une volonté de marier des éléments réalistes à une dimension presque magique ou symbolique, où le quotidien se pare d'une aura mystérieuse et où les frontières entre le tangible et l'invisible deviennent floues. Ce concept, qui s'inscrit dans une veine littéraire influencée par des auteurs comme Gary Victor, mais aussi par des courants comme le réalisme magique latino-américain, permet à l'autrice d'explorer des réalités intimes et sociales de manière détournée, sans jamais sacrifier la complexité humaine sur l'autel du genre. Le parcours d'Abdelmoumen est également marqué par une tension productive entre la solitude inhérente à la création littéraire et l'engagement collectif. Ce double mouvement, qui la pousse tantôt à se retirer pour écrire, tantôt à s'impliquer activement dans la promotion de la littérature des autres, illustre une profonde réflexion sur le rôle de l'écrivain dans la société. En choisissant de consacrer des pages sérieuses à des auteurs comme Michel Jean dans Lettres québécoises, elle participe à cette forme de consécration qui, dans un milieu littéraire souvent élitiste, permet à des voix moins connues de se faire entendre et d'être reconnue. Je prends mon rôle de prescriptrice très au sérieux. Il s'agit d'un aspect que j'explore avec le sentiment joyeux de contribuer à mettre de l'avant des œuvres dont la valeur littéraire et les valeurs tout court m'apparaissent d'une importance capitale. Ce geste relève d'une forme de militantisme littéraire, d'un engagement intellectuel fort, ancré dans la conviction que la littérature a le pouvoir de transformer les regards, d'ouvrir des perspectives et qu'il est essentiel de rendre visibles des auteurs, des autrices et des œuvres qui n'ont pas toujours bénéficié des projecteurs. Abdelmoumen incarne ainsi un pont entre les sphères de la création solitaire et celle de la promotion des voix émergentes ou simplement oubliées, assurant ainsi la continuité d'un dialogue littéraire nourri d'une grande diversité. En somme, Melika Abdelmoumen, à travers Petite Ville et l'ensemble de son parcours littéraire, incarne une figure d'écrivain rare, une créatrice polymorphe, à la fois ancrée dans le réel et ouverte aux dimensions occultes du quotidien, qui refuse les compromis faciles et place la littérature au cœur d'un engagement aussi personnel qu'intellectuel. C'était Melika Abdelmoumen, Chacun sa cam, un texte de Philippe Fortin, paru le 21 octobre 2024 dans les libraires.
Île de la Madeleine, au pays de la résilience. Un texte de Nathalie Collard, paru le 22 septembre 2025, dans la presse. Partout au Québec, des communautés se mobilisent pour surmonter des épreuves. Cet automne, Dialogue vous invite à en visiter quelques-unes. Première escale, les Îles de la Madeleine, où notre chroniqueuse a constaté que malgré les défis qu'impose la vie insulaire, les Madelinos ne baissent jamais les bras. Par une belle soirée d'août, des dizaines de personnes sont réunies sur le terrain de la microbrasserie, à l'abri de la tempête, à l'étang du Nord. Un trio de musiciens assure l'ambiance de ce qui ressemble à un gros pique-nique familial. Les Madelinos sont réunis pour lancer la campagne de financement en soutien au rachat du phare du Cap Allwright, mis en vente par l'animatrice et productrice Julie Snyder au coût de 595 000 $. C'est le sujet de conversation de l'été aux îles. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me craint que les racines, lance le compteur Cédric Landry à l'Assemblée. La mise en vente du phare de l'Échourie, à Havre-aux-Maisons, a eu l'effet d'un électrochoc au sein de la communauté madelinienne, qui n'a pas tardé à se retrousser les manches. Ça nous prenait un événement comme ça pour réaliser que lorsqu'on parle de la perte de notre territoire, ça comprend aussi notre patrimoine, souligne Véronique Deraspe, directrice de la Société de conservation des îles de la Madeleine, SCIM. La SCIM est un des organismes membres du comité d'acquisition collective du phare. En l'espace de quelques semaines, la communauté s'est mobilisée et au moment d'écrire ces lignes, près de 250 000 $ avaient été amassés. Le comité qui a conclu une entente de principe avec Julie Snyder pour un prix de 550 000 $ avant taxes doit trouver les centaines de milliers de dollars manquants d'ici le 15 octobre 2025. Dans mes rêves, lance Véronique Deraspe, on se créerait un fonds pour protéger d'autres perles de nos cantons. Mais pas comme ça, pas dans l'urgence, pas au beau milieu de l'été. La mise en vente du phare est loin d'être la pire épreuve qu'ont eu à surmonter les Madelinots. La liste est longue. Interdiction de la chasse aux Blanchons, fermeture de certaines pêcheries, tempête, érosion des berges. L'histoire des îles de la Madeleine rime avec adversité, mais aussi avec ingéniosité. Connaissez-vous l'histoire du Ponchon? Me demande le député péquiste Joël Arsenault, un natif de l'endroit. En 1910, après la rupture de l'unique câble qui les relie au continent, les Madelinots mettent à l'eau un petit baril muni d'une voile dans lequel ils déposent des messages. En deux semaines, le baril se rendra contre vents et marées jusqu'à l'île du Cap-Breton. Cette histoire, insiste M. Arsenault, montre à quel point la résilience est inscrite dans l'ADN des Madelinots. La nécessité est mère de l'invention. En septembre 2022, la tempête Fiona frappait les îles. Sur la grave Havre-Aubert, les dégâts étaient considérables. Trois ans plus tard, non seulement les commerçants sont revenus et ont consolidé leurs bâtiments, mais de nouvelles boutiques ont ouvert leurs portes sur ce site historique. Les lieux grouillent de touristes. Il y a un avant et un après Fiona, croit Jasmine Solomon, chef de section en action climatique à la municipalité des îles de la Madeleine. La tempête Dorian en 2019, dit-elle, avait éveillé les Madelinots à la réalité des changements climatiques, car les dégâts étaient très visibles. Fiona a eu un impact au niveau réglementaire. Ça a déclenché des discussions avec différents ministères pour qu'on agisse de façon durable. Il y a deux ans, la communauté maritime des îles de la Madeleine, l'agglomération qui comprend les municipalités des îles et de Grosse-Île, a donc déposé son cadre d'intervention en érosion et submersion côtière. Et depuis, 31 sites sont surveillés de près. Parallèlement, on a mis en place diverses mesures pour ralentir l'érosion. Je visite les îles depuis 20 ans et j'ai vu le paysage changer au cours des dernières années. À commencer par les enrochements et les recharges de plages à la grave, après le passage de Dorian, où on observe un retour à la biodiversité plus rapide que prévu. Se réjouit Mme Solomon. Une équipe de 50 scientifiques suit l'évolution des différentes recharges partout sur le territoire des îles, m'explique-t-elle, et on pense installer des caméras pour surveiller d'encore plus près les effets des tempêtes. Mme Solomon est enthousiaste. Les projets se multiplient. Jusqu'en 2030, le ministère du Transport et de la Mobilité durable, TMDQ, construit des recharges à des endroits particulièrement vulnérables, comme la Martinique et Pointe-aux-Loups. Plutôt que d'importer des galets de Terre-Neuve, comme pour la grave, on récolte le sable directement dans la mer pour reconstruire les cœurs de dunes. Toujours à la Martinique, un projet pilote verra l'installation de tubes en géotextile remplis de sable. Ils permettront de stabiliser l'érosion et de soutenir la recharge de plages. D'archipel vulnérable, les îles de la Madeleine sont en train de devenir un véritable laboratoire pour l'adaptation au changement climatique. Quand on peut, on utilise la nature environnante pour contrer l'érosion, comme pour ces brises vagues faites de sable et de végétation qui diminuent la puissance des lames qui viennent s'écraser sur la côte. Un autre exemple? La biocalcification des falaises, un projet en attente de financement. En gros, m'explique Jasmine Solomon, il s'agirait de produire des micro-organismes qui fabriquent une fine pellicule pouvant recouvrir les falaises. Comme si on les enveloppait dans une pellicule plastique de type Saran Wrap pour réduire l'érosion. Les tests sont concluants ailleurs, affirme Mme Solomon, et la bactérie pourrait même être produite sur place. Un lieu d'innovation. Au Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes, CERMIM, un organisme qui est au cœur de l'innovation en environnement, on aimerait bien faire des îles un pôle de recherche et développement. C'est ce que m'explique Marc-Olivier Massé, directeur associé du Centre, créé en 2004 et qui compte actuellement 15 employés. On fait le lien entre la recherche, l'entreprise et la communauté et on travaille sur trois axes, la gestion des déchets, l'économie circulaire et la mer, précise-t-il. On occupe beaucoup le golfe, ajoute le géographe de formation en me montrant un des deux robots sous-marins télécommandés, capables de plonger à plus de 300 mètres de profondeur pour aller chercher des instruments techniques ou encore pour récupérer des casiers à crabes et à homards. Une technologie d'avant-garde qui leur amène plusieurs contrats. Le CERMIM collabore avec des chercheurs du Québec et des provinces maritimes, en plus d'être en contact avec des réseaux insulaires ailleurs dans le monde. On travaille aussi avec les différentes industries pour qu'elles améliorent leurs pratiques et deviennent résilientes, souligne M. Massé. L'insularité oblige les chercheurs à rivaliser de créativité. Il faut viser l'autosuffisance sans générer trop de déchets. Ça donne des projets comme la valorisation des coquilles de mollusques, pétoncles, palourdes, etc., qui, broyées, remplacent la chaux importée aux îles pour faire baisser l'acidité des sols. C'est cette acidité qui leur donne leur belle couleur rouge. Autre exemple, un projet pilote de broyage de résidus de crabes transformés en engrais pour le jardin. Des déchets en moins au Centre de gestion des matières résiduelles de Havre-aux-Maisons, déjà sous pression. C'est à se demander si le proverbe « la nécessité est mère de l'invention » n'a pas été inventé aux îles. Attirer des gens aux îles. Tout autant que les changements climatiques, le déclin démographique inquiète le maire de la municipalité, Antonin Valiquette. Ici, m'explique-t-il, l'âge médian est supérieur de 10 ans à la médiane québécoise. Sur le continent, pour 100 personnes qui prennent leur retraite, il y a 60-70 personnes qui prennent la relève. Et les gens s'inquiètent. Aux îles, c'est 35. La communauté maritime des îles n'a pas attendu que les prévisions de l'Institut de la statistique du Québec, ISQ, se réalisent pour agir. En 2017, la communauté maritime a adopté la stratégie d'attraction des personnes, un plan pour attirer des travailleurs de l'extérieur. La cible était fixée à 100 par année. Résultat, on a attiré 920 personnes depuis 2018. « Ce n'est pas loin d'un village », s'exclame le maire Valiquette, qui se félicite que la majorité de ces nouveaux Madelinots ait entre 25 et 44 ans. Une bonne nouvelle, donc, qui pose toutefois un autre problème, l'habitation. « On les met où, ces gens-là ?» demande le maire, rappelant une évidence. « Aux îles, on ne peut pas s'étaler comme sur le continent. S'il y a un endroit où je ne pensais pas entendre parler de densification, c'est bien ici. » Or, comme partout au Québec, les îles de la Madeleine sont soumises à la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire du gouvernement québécois. Il faut donc densifier. Le CISSS vient d'obtenir une dérogation pour construire un édifice à 3 étages de 60 logements. Un autre grand employeur construira des dizaines de logements à Cap-aux-Meules où un projet d'éco-quartier se concrétise tranquillement. La municipalité a également adopté des règlements, controversés, il faut le dire, pour mieux encadrer les résidences touristiques. Bref, là encore, on prend le taureau par les cornes, même si construire des logements aux îles coûte 60 % plus cher que sur le continent. On dirait que peu importe le défi que le destin envoie aux Madelinots, ils s'en emparent et font du judo avec. Si ce n'est pas de la résilience, je ne sais pas ce que c'est. Les îles de la Madeleine, en bref. Population. 12 654 habitants, variation, plus 1,4 % par rapport à 2016. Âge moyen, 49,2 ans. Superficie, 202 km². C'était Île de la Madeleine, au pays de la résilience. Un texte de Nathalie Collard, paru le 22 septembre 2025 dans la presse.